Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous, il est 13h à Melbourne, 5h du matin à Paris. Vous écoutez SBS French, votre programme en français. Nous sommes ensemble pendant une heure. Je suis Marianne Murat et au programme aujourd'hui, eh bien, beaucoup de sport. Puisqu'après le journal des sports, justement, de Jean-Noël Ducasse, on fera un point sur le critérium du Dauphiné avec notre collègue Christophe Mallet. Ensuite, comme chaque jeudi, c'est la chronique économie, Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich. Et de la culture, pour terminer, à la découverte d'une représentation musicale et cinématographique à la fois. C'est en fin d'émission, on commence tout de suite avec le journal. Les titres de l'actualité de ce jeudi 9 juin 2022. L'opérateur du marché de l'énergie en Australie doté de davantage de pouvoir pour stocker du gaz et de l'électricité afin de pallier les futures pénuries. À Berlin, une enseignante tuée lors d'une sortie scolaire, fauchée par un véhicule lancé dans la foule. Et enfin, la Ligue des Nations, les Bleus, derniers de leur groupe après la défaite contre le Danemark et le nul concédé à la Croatie. Plus de détails dans le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse. Mais avant de développer ces titres, cette dernière information, l'enfant de 11 ans, porté disparu depuis hier dans le nord-ouest de Sydney, a été retrouvé sain et sauf. Christopher Wilson avait été vu pour la dernière fois mercredi après-midi hier, aux alentours de 15h en descendant du bus scolaire. Il n'était ensuite pas rentré chez lui. Les ambulanciers l'ont tout de suite pris en charge puisqu'il a passé la nuit dehors, nuit durant laquelle il a fait seulement 4 degrés. Le petit Christopher est maintenant en observation à l'hôpital.
Look, we haven't filled in all the pieces of the puzzle yet, but it looks like Christopher went on a little bit of an adventure yesterday afternoon and overnight he obviously put his head down somewhere, we think in some bushland, and this morning he was located heading back towards home, so it was a fantastic outcome.
On le disait en titre, le gouvernement à l'assaut d'un meilleur approvisionnement énergétique en Australie. C'est ce qui ressort tout du moins d'une réunion entre le ministre fédéral de l'énergie Chris Bowen et les ministres de chaque État et territoire. C'était hier cette réunion. L'opérateur du marché de l'énergie, l'Australian Energy Market Corporation, va désormais pouvoir stocker davantage de gaz et d'électricité afin de pallier d'éventuelles futures pénuries. Et d'après les ministres, cet approvisionnement mettra l'accent sur les énergies renouvelables plutôt que sur le charbon. On écoute Chris Bowen qui assure que les pannes d'électricité ne seront pas plus fréquentes à l'avenir.
No, I don't accept that as inevitable. What I do accept is that is a result if you get it wrong. That's the result of poor planning and a previous government which didn't see the opportunities of transmission, didn't see the opportunities of renewable energy, because you've got to get this transformation right. So I don't accept it's inevitable that we're going to see the sort of crises we've seen over the last week. That's not a result of transitioning to renewables. That's a result of poor planning and poor policy.
Toujours en politique australienne, la ministre des services sociaux, Amanda Rishworth, a déclaré que la mise en œuvre du plan national contre les violences domestiques était sa priorité. Le plan actuel arrive à son terme à la fin du mois. Le nouveau sera lancé pour une durée de 10 ans. Interrogée par nos confrères de ABC, Amanda Rishworth s'est désolée que le gouvernement Morrison n'ait pas pris de mesures concrètes pour commencer à travailler en amont sur ce plan.
We need to get it right. We need to get this national plan right by making sure we actually have the plan in place because it's in for 10 years and saying that we need the actions, the deliverables that go along with that.
Si vous souhaitez refaire vos papiers d'identité, eh bien cette information peut vous intéresser. 250 employés supplémentaires ont été recrutés durant les 6 prochaines semaines afin d'accélérer les délais, afin de traiter les demandes de passeport. Les retards en ce moment sont très longs et pour cause, hein, puisqu'avec la réouverture des frontières, il y a de plus en plus de personnes qui demandent de nouveaux papiers. À titre d'exemple, avant-hier, eh bien 16 400 demandes de renouvellement de passeport ont été déposées. Sachez qu'en temps normal, c'est presque moitié moins. Conséquence, de nombreuses personnes se retrouvent sans documents au moment de prendre l'avion, de quitter le pays, de passer la frontière. C'est le cas de cet homme qui témoigne au micro de SBS. Il n'a pas pu assister aux funérailles de son beau-père en Inde vendredi dernier. Son passeport n'est pas arrivé à temps.
Because of the COVID and all that, we haven't visited them in like... 2.5 years, and I was really hoping I could see him one last time and pay the final respect and also support my wife and you know, in this situation a lot of things going on, and if I were there I could help them out, and I'm here helpless, sitting in a line all day. That's all I can do.
Dans l'actualité internationale, à présent, le jour d'après, en Allemagne, après qu'une voiture a foncé dans la foule hier à Berlin, une personne est décédée. C'était une enseignante. Elle était en sortie scolaire avec ses élèves. Plus d'une douzaine de passants sont blessés, parmi eux plusieurs élèves de la sortie scolaire, justement. Le conducteur, un germano-américain de 29 ans, résident à Berlin, a lui été arrêté. À l'heure de ce journal, on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un accident ou d'un acte délibéré. Ulrich Trautwein est le prêtre de l'église située juste en face du lieu du drame. On l'écoute.
For all of us who are here in this place this morning, there is a deep rift in this day. One minute it's a normal summer morning, and then all of a sudden it's all over, and our lives are darkened because violence, brutal violence, has broken into the lives of helpless people on their different journeys. One woman killed, many injured, terrified, and turned into emotionally wounded witnesses.
On en vient à ce message poignant, presque comme une menace, du secrétaire général de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Aucun pays ne sortira indemne de la hausse du coût de la vie provoquée par la guerre en Ukraine. Déclaration d'Antonio Guterres. L'ONU, qui tente actuellement de mettre en place l'exportation de millions de tonnes de céréales depuis l'Ukraine pour faire face au blocage mis en place par la Russie. Hier, lors d'une rencontre entre Moscou et Ankara, la Turquie a confirmé son soutien à la création d'un couloir maritime pour exporter ses céréales, mais à une condition, l'assouplissement des sanctions européennes contre la Russie. La sécurité alimentaire mondiale est donc absolument menacée, plus que jamais. On écoute Antonio Guterres.
The war, together with the other crises, is threatening to unleash an unprecedented wave of hunger and destitution, leaving social and economic chaos in its wake. Vulnerable people and vulnerable countries are already being hit hard. But make no mistake, no country or community will be left untouched by this cost of living crisis.
Et autre conséquence de l'invasion russe en Ukraine, la chute de la croissance économique mondiale. Les perspectives viennent d'être vues à la baisse par l'OCDE. Ils prévoyaient une croissance de 4,5%. Ils envisagent désormais seulement 3%. L'inflation devrait-elle plus que doubler à 9% environ. Des conséquences économiques qui n'épargnent personne, selon la secrétaire générale adjointe de l'OCDE, Laurence Boone.
And let me start by saying that we're all paying the price of Russia's aggression against Ukraine. First and foremost, Ukrainians, obviously. But the war is also a big shock to the world economy. It will drag growth down, and it is pushing inflation higher.
Les suites des récentes fusillades aux États-Unis et la question toujours relancée qui fait toujours autant débat, celle du port d'armes. Face au Congrès américain, les parents de l'une des enfants tués lors de la tuerie d'Uvalde au Texas, tuerie qui, on le rappelle, a fait 19 morts le mois dernier, eh bien, ces parents ont crié à leur désespoir. Le matin même de la fusillade, ils étaient à l'école avec leur fille pour une remise des prix. Quelques heures plus tard, ils apprenaient sa mort. Ce témoignage intervient alors que le Congrès vient de voter afin d'augmenter l'âge pour pour l'achat d'une arme semi-automatique. Ils ont augmenté l'âge à 21 ans et pour interdire la vente de chargeurs de plus de 10 cartouches. Toutefois, il faut le dire, c'est un vote qui n'a que très peu de chances de se concrétiser en loi à l'avenir. On écoute cette mère, la mère qui a perdu sa fille dans la tuerie d'Uvalde, Kimberly Rubio.
We seek a ban on assault rifles and high-capacity magazines. We understand that for some reason, to some people, to people with money, to people who fund political campaigns, that guns are more important than children. So at this moment, we ask for progress.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du jour. Un point sur la météo de ce jeudi après-midi et principalement, il pleut, il fait froid. On commence par Perth, des averses 23 degrés. Adélaïde averse également 15 degrés. Melbourne comptait 13 degrés. À Hobart, il pleut 10 degrés. Canberra, c'est nuageux, il faut compter 10 degrés également. À Sydney, du soleil, ils sont chanceux dans le New South Wales, 16 degrés. Du soleil également à Brisbane, 18 degrés. Et Darwin, le plus chaud. Comme d'habitude, 33 degrés. Le rappel des titres, l'opérateur du marché de l'énergie en Australie doté de davantage de pouvoir pour stocker du gaz et de l'électricité afin de pallier les futures pénuries. L'État qui espère raccourcir les délais de demande de passeport dans les prochaines semaines. Et enfin à Berlin, une enseignante tuée lors d'une sortie scolaire, fauchée par un véhicule lancé dans la foule.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBSFrench.
C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté, de l'avoir suivi. Surtout, restez sur SBS French. Ce n'est pas la fin de cette émission. Tout de suite, après une courte page de publicité, c'est le journal des sports présenté par Jean-Noël Ducasse, avec bien sûr les derniers résultats de la Ligue des Nations.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord les matchs de la Ligue des Nations qui se poursuivent. Deux matchs de Ligue A hier avec la victoire écrasante de la Belgique contre la Pologne 6 buts à 1. Le Pays de Galles s'est incliné face aux Pays-Bas 2 à 1. En Ligue B, la victoire de l'Écosse contre l'Arménie 2 à 0. Et l'Ukraine qui gagne contre l'Irlande 1 but à 0. Les Bleus se préparent pour leur match contre l'Autriche. C'est demain, vendredi, pour la troisième journée de la Ligue des Nations. Ibrahima Konaté est au sein des Bleus. Antoine Grenier, RFI.
Un sourire d'un mètre 94, Ibrahima Konaté promène sa bonne humeur sur les terrains comme devant les journalistes. La joie d'un gamin de 23 ans passé par Sochaux, Leipzig et désormais Liverpool. La satisfaction du cadet d'une fratrie de 8 d'origine malienne, de natif de Paris, appelé chez les Bleus alors qu'il était en vacances.
J'étais sur un bateau avec mes amis en Grèce. Je vois deux appels manqués, j'apprends la nouvelle, c'est vrai que pendant 5 minutes, j'étais perdu un peu, je disais quoi faire, je voyais mes amis en train de danser et tout, je me disais, est-ce qu'ils savent ce qui se passe? C'était une énorme fierté, que ce soit pour moi, ma famille.
Konaté, recruté par Liverpool l'été dernier, a fait son nid chez les Reds jusqu'à disputer une finale de Ligue des Champions aux côtés de Virgil van Dijk.
J'ai pu jouer avec Matip, avec van Dijk, avec Joe Gomez et les trois m'ont apporté quelque chose. Après, c'est vrai que van Dijk aujourd'hui, c'est vrai qu'il me donne beaucoup de conseils. C'est chaque joueur, que ce soit Sadio Mané ou Fabinho, à n'importe quel poste, ils sont tous là à m'apporter quelque chose que je ne savais pas auparavant.
Konaté, qui n'est pas passé inaperçu depuis son arrivée dans le groupe France, Adrien Rabiot, le milieu tricolore.
Il est très souriant, aimable, il parle avec tout le monde, donc c'est un bon garçon et il est toujours plus facile d'être bien accepté quand on est un bon joueur.
Une adaptation express et pourquoi pas une première sélection dès vendredi et le match contre l'Autriche.
L'Australie a battu les Émirats Arabes Unis 2 à 1 pour se rapprocher un peu plus aux dernières étapes pour se qualifier pour leur 5e Coupe du Monde consécutive. Jackson Irving, qui a marqué le premier but pour les Socceroos, a déclaré au Ten Network que l'accent était déjà mis sur leur prochain match contre le Pérou la semaine prochaine. Foot toujours, les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent avec quelques résultats. Il y avait 6 matchs hier. La RDC qui s'est inclinée face au Soudan 2 à 1. L'Ouganda et le Niger ont fait match nul, un but partout. Match nul également entre le Gabon et la Mauritanie, 0-0. Victoire du Congo contre la Gambie, 1-0. Victoire également de l'Algérie contre la Tanzanie, 2-0. Et le Mozambique qui a battu le Bénin, 1-0. Sepp Blatter, ex-patron de la FIFA, et Michel Platini, ancien président de l'UEFA, sont devant un tribunal suisse pour 2 semaines pour allégations d'escroquerie. Les précisions d'Éric Mamrut pour RFI.
Après 6 ans d'enquête, l'ancien président de la FIFA et l'ex-président de l'UEFA vont comparaître durant 2 semaines devant le tribunal pénal fédéral de Bellinzhon. Les 2 hommes sont accusés de s'être entendus illégalement en 2011 sur un versement de 2 millions de francs suisses provenant des caisses de la FIFA en faveur de l'ancien capitaine tricolore Michel Platini et Sepp Blatter, jugés notamment pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance, une affaire qui a brisé la carrière des 2 dirigeants. Le fond du dossier n'a pas été abordé lors de cette première journée qui devait être consacrée à l'audition de Sepp Blatter, mais le Suisse fatigué et souffrant, elle a dû être reportée à demain. De son côté, la défense de Michel Platini a essayé de faire un dans la procédure, celle distincte impliquant l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino. Selon l'ancien numéro 10 des Bleus, il aurait mené une conspiration destinée à l'écarter de la course à la présidence de la FIFA. Une théorie du complot que les magistrats ont écartée. Reste que l'avocat de Michel Platini demeure confiant quant à l'issue positive de ce procès pour son client, maître Dominique Nélen.
Monsieur Platini est fortement positif qu'on faille un tribunal qui statue sur cette question. Il y aura des témoins importants les prochains jours, vous allez voir ce qu'il dépose. Donc on attend la décision du tribunal avec beaucoup de positivité de notre part.
Michel Platini sera entendu demain par le tribunal juste après Sepp Blatter.
Cyclisme, le critérium du Dauphiné, eh bien, c'est l'Italien Filippo Ganna de l'équipe Ineos Grenadier qui a remporté la 4e étape. Le maillot jaune, c'est toujours aux mains du Belge Wout van Aert. Et puis un mot sur les championnats d'Afrique d'athlétisme, la 23e édition qui a débuté hier mercredi à Maurice, au complexe sportif de Côte d'Or. Un reportage Abdullah Erali pour RFI.
Les seules craintes des organisateurs, la météo en ce début d'hiver et le silence des gradins. Le huis clos est encore de rigueur dans les stades, même si la vie ailleurs dans l'île est retournée à la normale, quasiment. Les premiers participants à avoir foulé le sol mauricien sont des athlètes francophones en stage. Parmi eux, Franck Rabea-Rissou, recordman du 400 mètres de Madagascar et champion de l'océan Indien. Habitué de grands rendez-vous, il a pour seul objectif de donner le meilleur de lui-même durant ses 22e championnats d'Afrique d'athlétisme.
Je fais mon mieux pour aller de l'avant toujours comme d'hab. Chaque fois que j'ai fait compète, donc je donne le maximum pour mon pays et voilà.
La vie dans les stades d'athlétisme connaît en ce moment une pleine animation. L'entraîneur ivoirien Anthony Kofi est sur place depuis 2 semaines pour assister des sprinteurs francophones. Ce technicien qui a encadré de nombreuses valeurs africaines s'attend à des épreuves d'un niveau européen durant ce rendez-vous mauricien.
Je prends par exemple l'exemple du 100 mètres dames avec le Kenya, avec Cissé, avec les Sud-Africains. Et ça sera une finale de 100 mètres relevée. Tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, nous aurons un bon 400 mètres. Bon, le demi-fond et le fond, ça c'est la tradition chez les Africains. Mais ce que j'ai vu comme installation sportive, je crois qu'il y a tout pour faire de grandes performances.
650 athlètes venant de 36 pays ont confirmé leur participation. La plus forte délégation sera sud-africaine avec 108 athlètes et officiels, suivie de l'Éthiopie et du Nigeria.
Et puis rugby, un mot de rugby, le premier match de la State of Origin hier avec la victoire du Queensland contre la Nouvelle-Galles du Sud, 16-10. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi.
Un peu de mélancolie heureuse, comme la quiétude d'une caresse, comme une tonalité joyeuse, bien l'opposé de la détresse.
C'était un peu de mélancolie heureuse interprétée par Team Dup, une chanson, je vous le disais la dernière fois, qu'on aime beaucoup à SBS French et qu'on va beaucoup vous passer en juin puisqu'elle fait partie de notre sélection du mois. On continue sur SBS French et du sport encore, on vous le disait en sommaire, beaucoup de sport aujourd'hui. On fait le point sur la course de cyclisme, le Critérium du Dauphiné, avec notre collègue Christophe Mallet, interrogé par Jean-Noël Ducasse.
Eh bien, le plaisir d'avoir notre collègue Christophe Mallet sur les ondes. Bonjour, Christophe.
Bonjour, bonjour Noël, bonjour à tous. Ça fait toujours plaisir d'être sur SBS.
On va parler, comme d'habitude, du cyclisme. Et en ce moment, se déroule le Critérium du Dauphiné, l'édition de 2022. Racontez-nous l'historique de cette course qui dure depuis 1947, d'après ce que je comprends.
Oui, tout à fait. C'est vraiment une course qui a été... à l'après-guerre, alors avant ça s'appelait le Dauphiné Libéré, parce que c'était le nom d'un journal, le Dauphiné Libéré, et donc c'est une course qui a été donc historiquement créée par les mêmes organisateurs en gros que le Tour de France. Et c'est vraiment une course qui est très utile dans le calendrier pour les cyclistes, parce que c'est une des courses de préparation pour le Tour de France. Et aujourd'hui, c'est toujours une course qui est organisée par les organisateurs du Tour de France. Donc, ce qui veut dire que très souvent, le parcours reflète un petit peu le Tour de France qu'il y aura après. Donc, c'est vraiment un tour préparatoire pour les cyclistes. Donc, c'est toujours un plateau qui est très, très, très relevé. À noter que pour la petite anecdote, le directeur de la course, c'est Bernard Thévenet, qui a gagné le Tour de France en 1975, mon année de naissance. Et aujourd'hui, l'édition donc de 2022 est relativement montagneuse. On va en parler. Et que, eh bien, c'est vraiment un tour c'est un petit tour très intéressant. Et le dernier vainqueur en date, puisqu'il y aura un nouveau vainqueur à la fin de la semaine, le tenant du titre, c'est Richie Porte, l'Australien, qui malheureusement n'est pas là, puisqu'il a été malade et n'a pas été sélectionné pour ce Dauphiné.
Et donc, c'est très important pour les coureurs de se présenter et de prendre part à cette course à la veille du Tour de France.
Tout à fait. Et c'est vrai que, comme je le disais, c'est vraiment l'antichambre du Tour de France. Donc, on le voit un peu aujourd'hui. Les coureurs qui sont là sont des coureurs qui seront là très vraisemblablement sur le Tour de France. Et c'est vraiment un premier élément où on va juger et jauger un peu les forces en présence de ce Tour de France. Et notamment, aujourd'hui, on l'a vu, hein, le leader Wout van Aert, qui est le deuxième leader de l'équipe Jumbo-Visma, derrière Primoz Roglic. Wout van Aert qui est vraiment en train d'être étincelant sur ses routes donc du Dauphiné. Donc vraiment, c'est ça, on voit vraiment les forces en présence. C'est aussi une course où historiquement les Français vont plutôt pas mal dans le nombre de victoires, le nombre de victoires d'étapes. Déjà cette année, on en est à la quatrième étape pardon pour cette année. Il y a eu deux victoires françaises, deux belles victoires françaises avec Villermoz et Gaudu. Donc c'est vraiment une antichambre du Tour de France avec un goût un petit peu plus français. On aimerait bien que les Français soient aussi bons que ça sur le Tour de France. Malheureusement, ils ne sont pas forcément tout le temps, mais ça fait rêver.
Absolument, parce qu'au palmarès, il y avait à l'époque Poulidor, Hinault et même Merckx qui ont gagné ce Dauphiné Libéré.
Ouais, tout à fait. C'était le Dauphiné Libéré à l'époque. Vous avez raison. Et c'est vrai que on a toujours ces images de bataille dans les montagnes et de bataille avec les éléments. Et c'est vrai qu'on pense tout de suite au Tour de France, mais le Dauphiné a vraiment été un terrain de jeu aussi pour ces batailles avec des aujourd'hui on les nomme hein, Poulidor, Rantis, c'est des légendes du sport. Et on a vraiment la chance en France d'avoir des légendes du sport françaises. Absolument.
Vous aviez mentionné Richie Porte qui a gagné l'année dernière. Il y a un autre Australien qui se pointe à la 10e place en ce moment.
Tout à fait, il s'appelle Ben O'Connor et c'est la vraie révélation de l'année dernière. Ben O'Connor avait fini 4e du Tour de France. 4e, c'est au pied du podium, on va dire. On pourrait être cynique et dire que c'est le premier loser, mais en fait, 4e, c'est une énorme tâche et atteinte par ce jeune Australien qui est d'ailleurs d'un endroit que vous aimez bien, hein, Jean-Noël Perth. Il est de WA et ça aussi reflète le fait que le nid du cyclisme australien, il est au WA, il est vers Perth. Ce qu'on l'a vu, Jai Hindley, qui vient de gagner le Tour d'Italie, eh bien, il est de Midland, à côté de Perth. Il y a donc Ben O'Connor, il y a aussi toute une floraison de cyclistes australiens qui sont là et qui viennent de par là. Donc Ben O'Connor, c'est vraiment le coureur à suivre pour ce Tour de France. Et moi, je dirais qu'il est toujours à suivre pour ce Dauphiné, parce qu'il y a de grosses, grosses montagnes qui arrivent. Et on sait qu'aujourd'hui, comme je disais, dans le WA, il y a une espèce de nid de coureurs comme Michael Storer également qui sont vraiment là et qui sont des grimpeurs, alors qu'en fait avant historiquement on avait les Robbie McEwen, on avait Stuart O'Grady qui étaient des sprinteurs, donc on était tout sur la vitesse, tout sur la puissance. Voilà, on a des poids plumes qui savent monter dans des cols et des super grosses montagnes australiennes. C'est quand même hallucinant de se penser que des Australiens de Perth au niveau de la mer sont capables d'aller gravir les montagnes et battre les plus grands Italiens et les plus grands Français sur leur terrain de jeu dans les montagnes.
Et donc, ce sera à la montagne que tout se jouera ce week-end-ci.
Et ouais, c'est toujours là où ça se joue. C'est vrai que c'est toujours très important de savoir passer les montagnes. C'est-à-dire qu'en fait, un sprinter va pouvoir aller très vite, mais il va jamais faire des gros écarts dans les étapes. Donc, sur le classement général, les gros écarts sont souvent faits et joués dans les montagnes. Et quand on a des profils comme on a ce qui va arriver dans les quelques prochains jours dans le Dauphiné, c'est vraiment là que les différences vont se faire. C'est savoir comment passer la montagne. Bon, à vrai dire, Wout van Aert, qui est aujourd'hui le leader du Dauphiné, il a vraiment de grandes chances de remporter l'épreuve. Il est vraiment un peu au-dessus de tout le monde en ce moment. Et il a prouvé qu'il pouvait gagner des étapes de montagne, puisqu'il y a quelques années, il avait gagné une étape au Mont Ventoux, ce qui était incroyable quand on voit la stature du bonhomme, puisqu'il est plus grand que moi et plus gros que moi. donc, ça veut dire qu'il sait aussi gravir les montagnes, et c'est impressionnant de la part de quelqu'un comme Wout van Aert.
Et il ne faut pas oublier que SBS diffuse la course tous les soirs.
Oui, tout à fait, c'est tous les soirs, et on aura une émission spéciale d'ailleurs que j'aurai l'honneur de présenter samedi soir en direct de Sydney. On a une émission spéciale sur le Dauphiné, justement pour la dernière étape de cette épreuve, et surtout le lancement, vraiment la rampe de lancement pour le Tour de France. Et sur SBS, il y a également bien le Women's Tour of Britain, qui est peut-être la deuxième ou troisième plus grande course féminine sur le calendrier du cyclisme féminin. Et bien, ce tour est également à l'antenne d'SBS. Il est que sur SBS sans demande, mais c'est déjà ça. Ça vaut vraiment le coup. SBS, c'est vraiment la grande maison du cyclisme. Et avec énormément de cyclisme qui arrive, puisque vous le disiez, Jean-Noël, on a le Tour de France qui pointe son nez et on adore ça. En tout cas, moi, j'adore ça.
Absolument, et on va vous avoir sur le Tour de France. Vous serez sur les routes de France et les routes du Danemark, et on espère vous avoir dans nos émissions au mois de juillet.
Absolument, je sais que je fais des jaloux, mais c'est pas grave, j'aime quand même ça.
Merci Christophe, et à très bientôt.
Merci Jean-Noël, bonne journée à tous.
Comme chaque jeudi, c'est l'heure de la chronique économie. Jean-Noël Ducasse et Nicolas Perpich, c'est tout de suite après une très courte pause, une très courte page de publicité.
Et bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Et avec toutes les mauvaises nouvelles qui circulent, on s'attend à une excellente récolte prévue pour les fermiers cette année-ci.
Oui, tout à fait, vraiment une bonne nouvelle. La récolte des graines, en fait, est prévue d'être la meilleure qu'on a jamais vue. Et donc, selon l'agence qui examine ça, qui s'appelle iBay, la valeur des exportations vont atteindre des niveaux qu'on n'a pas vus, des niveaux records, à peu près 65 milliards de dollars en 2022-2023. Donc, ça fait un peu plus que l'année dernière. Et les prix pour les graines sont très, très hauts, et c'est en grande partie à cause de la guerre en Ukraine, qui a longtemps été un des plus grands exportateurs de graines, mais plus du tout maintenant, ou beaucoup, beaucoup moins de toutes les façons, mais aussi parce qu'il y a eu énormément de pluie pendant l'été australien, même beaucoup trop avec les inondations, bien sûr, mais les conditions n'ont pas été les mêmes dans d'autres régions de production autour du monde. Donc, le système climatique La Niña a vu bien sûr des inondations, mais beaucoup de pluie sur la côte est de l'Australie, Mais en même temps, ça a créé de la sécheresse en Inde, au Pakistan, en France et même dans des parties de l'Afrique. Donc, c'était aussi très sec aux États-Unis, au Canada et en Amérique du Sud. Alors, en réponse à ces problèmes-là, dans d'autres régions du monde, les fermiers australiens ont planté 1% de plus de blé que l'année dernière et plus de canola qu'on n'a jamais vu. Donc, alors pendant les 12 derniers mois jusqu'au mois de mars, 3 millions de tonnes de blé, d'ogre et de canola ont été exportées des ports australiens chaque mois. Donc, assez extraordinaire. Et ça, c'est autant qu'on a vu depuis l'année 2016-2017, qui était une année formidable pour les fermiers. Mais en même temps, il ne faut vraiment pas s'attendre à voir les prix de la nourriture baisser dans les supermarchés, parce que avec tant de demandes autour du monde, les prix vont continuer à rester assez hauts, malheureusement. Mais c'est bien de voir une bonne année pour les fermiers quand même. Ils le méritent vraiment.
Absolument. Et puis, l'homme d'affaires, Clive Palmer, a dépensé autour de 31 millions de dollars sur des publicités pendant la campagne électorale, mais il n'y a eu aucun résultat.
Oui, voilà. Donc, ça, c'est 31 millions de dollars en 6 semaines. Et c'est vraiment un mélange là de l'histoire de business et de la politique, parce que c'est un homme d'affaires, c'est le chef du United Australia Party, et c'est aussi un millionnaire qui a fait son argent vraiment dans le secteur des ressources, avec des mines au Queensland et en Australie occidentale. Et donc lui, il a dépensé plus que Labour et les Liberals ensemble. Donc c'était au moins 5,2 millions de dollars chaque semaine, même peut-être plus. Mais ça, c'était pour des pubs à la télévision, dans les journaux, à la radio, YouTube. Et c'était par moments vraiment difficile à éviter les publicités du United Australia Party de Clive Palmer. Donc, il avait dépensé autant d'argent, même 30 millions de dollars à peu près, dans les 6 mois avant les élections aussi. Mais tout ça, c'est pour convaincre les gens de voter pour ses candidats, parce qu'il avait des candidats dans chacun des 151 électorats de la House of Representatives. Il avait aussi des candidats pour le Sénat, dans chaque État et chaque territoire, mais il a gagné seulement 4,12% du vote dans la Lower House et 3,43% du vote au Sénat. Et donc, pendant la même période, Labour a dépensé 13 millions de dollars et les Liberals 10,5 millions de dollars. C'était juste 915 000 dollars pour les Verts, qui eux, par contre, ont très bien réussi pendant ces élections avec plusieurs sièges à Brisbane, notamment. Alors, toutes ces dépenses ont mené Zali Stegall, qui représente l'électorat de Warringah à Sydney, à dire que vraiment il était temps maintenant de limiter combien d'argent on pouvait dépenser comme ça pendant les élections, pour que ça soit plus proportionnel et aussi plus équitable. Parce que bien sûr, pas tout le monde peut payer des millions et des millions pour essayer de s'acheter des sièges au Parlement. Mais ça n'a pas marché pour cet homme d'affaires, cet homme politique, Clive Palmer. Il va probablement rien avoir. Il y a une toute petite chance qu'il pourrait gagner un siège au Sénat au Victoria, mais vraiment, ça, c'est pas du tout sûr. Donc, on voit qu'on ne peut pas vraiment tout acheter avec l'argent quand même.
Merci pour cette analyse de l'économie australienne. À la semaine prochaine, Nicolas.
Merci, à la semaine prochaine.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
On vous le disait en sommaire, une page culture à présent, une page culture dans laquelle la musique fusionne avec le cinéma.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone.
sbs.com.au/chill.
On va parler culture avec une performance musicale sur scène à Sydney le samedi 11 juin. Il s'agit d'un ciné-concert, la fusion du musicien Rami Ralifé et de son piano, avec en contrepoint des images du Liban, son Liban, tourné par le réalisateur François Rousseau. Pour en discuter en détail, nous sommes en ligne avec l'artiste justement, Rami. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pianiste, vous êtes compositeur. Votre dernière œuvre s'appelle Lost Return to Beirut. On peut plutôt parler d'une performance hein, plutôt qu'un spectacle, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait, une performance dans le sens où c'est vraiment plusieurs formes d'art qui se juxtaposent les unes aux autres. C'est-à-dire qu'on n'est pas là dans un format habituel d'un concert de piano. Le piano devient vraiment comme un vecteur d'expression qui va au-delà de la musique. Déjà, moi, à la base, la façon dont je performe et je joue le piano est d'une manière un peu personnelle, car j'utilise l'instrument d'une manière très orchestrale. Pour moi, le piano, c'est au-delà de ce que l'instrument... Enfin, on a l'habitude de l'entendre d'une certaine manière, mais pour moi, j'essaie toujours de tirer profit de cet instrument au maximum de ses capacités et l'utiliser vraiment comme un instrument de percussion, jouer dans les cordes à l'intérieur, d'expérimenter un peu tout ce que le piano peut faire. Dans ce concert-là, il y aura donc une projection d'un film coproduit avec François Rousseau, le réalisateur. Donc un film qui parle du Liban, de mon expérience, car je suis d'origine libanaise, de mon expérience.
On va en parler juste après, justement.
Voilà, voilà. Et donc c'est un concert voilà qui allie donc l'image et le son. Aucun des deux plus important. Les deux sont justement se s'auto-nourrissent et se auto-émulent en fait pour produire quelque chose, une sorte de performance artistique.
Et alors très concrètement, les gens qui seront dans la salle ce samedi 11 juin, qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ça va ressembler à quoi ?
Eh bien, en gros, ça va être une immersion totale dans la société libanaise. Donc, les gens vont voir à l'écran, il y aura un grand écran de cinéma. Le piano sera un peu plus bas que l'écran. Donc, ils pourront voir le film et en même temps me voir, moi, jouer le soundtrack du film. Et ce qui est intéressant dans cette collaboration, c'est que le film a été conçu à la base d'après ma musique. Donc, on a travaillé ma musique, on a écouté ma musique et on a fait les images après avoir écouté ma musique. Et c'est ça la démarche qui est intéressante, c'est qu'en général, on fait le film puis après la musique vient se greffer par-dessus. Et là, c'est totalement différent. Là, c'est les images sont greffées par-dessus ma musique. Le film parle de mon expérience personnelle. J'ai vécu au Liban jusqu'à l'âge de 8 ans. Je suis de la génération donc 81, ma date de naissance, et donc j'ai vécu une grande partie de la guerre au Liban. Et on s'est exilé avec ma famille en France. Ça parle un peu de la perte de l'identité, de plus savoir vraiment qui on est, la déchirure du pays, l'exil, le retour aux sources aussi, voir comment le pays a changé dans ces 30 ans d'absence, comment la société a évolué, parler un peu tous les problèmes concrets du Liban, c'est-à-dire le problème des religions, le problème des réfugiés, le problème climatique, le problème de la caste politique. Enfin, on a essayé vraiment des minorités aussi. On a fait un panel, en fait, de toute la société libanaise. On est allé rencontrer des gens un peu aux quatre coins du pays pour qu'ils nous racontent leur histoire, leur souffrance, leur déchirure, leur combat aussi quotidien, et en faire un film. À tous ces gens oubliés, à tous ces gens qui n'ont pas souvent la parole, on a voulu leur donner aussi cette plateforme et exprimer notre solidarité. Et ce film-là, c'est ça, ne pas avoir honte de qui on est, d'être fier, d'être fier de qui on est et de mener ces combats avec une fierté, avec un courage. Et c'est voilà. Donc, je pense que c'est là où on s'est retrouvé moi et François. C'est dans cette lutte, dans ce combat pour des valeurs, pour l'humanité, pour l'amour des gens entre eux. Plus que l'intolérance. C'était un film de tolérance. C'est vraiment un film qui prend de la tolérance.
Vous avez vécu au Liban jusqu'à vos 8 ans. Vous êtes parti avec votre famille pour fuir la guerre. Vous êtes ensuite parti à la redécouverte du Liban une fois adulte, même à la reconquête, si on peut dire. Est-ce que Lost, le spectacle que vous présentez à Sydney, est-ce qu'on peut dire que c'est votre travail le plus personnel ?
J'ai jamais perdu pied avec le Liban ni contact parce que on y retournait chaque vacances d'été, on allait revoir la famille, tout ça. Donc j'avais toujours des attaches, mais c'est vrai que ce travail-là était spécifique, très spécifique dans le sens où j'ai vraiment voulu documenter et mettre à nu, que ce soit la musique ou l'image, vraiment les sentiments les plus enfouis en fait, qui devaient. C'était comme une sorte de thérapie vraiment. qui était nécessaire, c'est-à-dire vouloir affronter aussi toutes les tous les traumatismes que j'ai pu moi et les gens de ma génération traverser. Donc on nous appelle les enfants de la guerre, mais voilà, c'est vrai que c'est une blessure indélébile. Et je voulais vraiment aussi partager aussi cette expérience, essayer justement aussi de voir les choses positives, d'essayer d'aller à la rencontre d'une jeunesse qui a envie d'un changement, d'une jeunesse qui a beaucoup d'énergie, qui veut vivre malgré tout, malgré toutes les difficultés, mettre une lueur d'espoir aussi au milieu de tout ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moments solaires, il y a beaucoup de moments où on va à l'encontre de l'océan, de la lumière, des montagnes, de la nature, parler des choses graves, mais aussi des choses belles qui restent. C'est pour ça que ce film me ressemble, parce que c'est vrai que moi, je suis quelqu'un très attaché à la nature, aux valeurs fondamentales de la vie, en fait, à la simplicité, aux belles choses, et je voulais aussi qu'on voit le Liban de cette manière-là, pas toujours de la manière dont on l'entend aux informations, c'est-à-dire les problèmes, la guerre, la corruption, tout ça. Bon, toutes ces choses-là existent, mais il fallait aussi pour moi parler des choses qui donnent une lueur d'espoir, parce que sans espoir, on peut pas avancer, et c'est important aussi de justement d'avoir cette balance, cet équilibre dans ces deux choses-là. C'était très important pour moi que tout ça soit documenté d'un œil extérieur, c'est-à-dire je voulais pas que ce soit un réalisateur libanais qui vienne et qu'on parle des mêmes choses. Le Libanais a sa vision du Liban, mais je voulais aussi que ça soit quelqu'un comme François, un Français qui a vécu toute sa vie en France, qui c'était la première fois qu'il allait au Liban, que lui, par son œil cinématographique, filme le Liban à sa manière, comme lui le voit, comme lui le conçoit, comme un touriste ou quelqu'un qui vient de l'extérieur verrait le Liban. Et c'était aussi important pour moi d'avoir ces deux visions-là, ces deux visions qui s'opposent et qui au final créent quelque chose en commun en fait.
Et dans ce film également, il y a la présence marquante de votre père, le compositeur et chanteur Marcel Ralifé. Est-ce que vous êtes devenu artiste de par votre éducation ?
C'était une plateforme, on va dire. Et c'était... C'est toujours plus facile d'être baigné dans cette ambiance-là depuis tout jeune. C'est vrai qu'on avait toujours la musique qui trônait dans la maison. Il y avait des instruments partout. Il y avait toujours, bien sûr, les amis de mon père qui étaient aussi... dans le milieu artistique, donc on a toujours baigné dans ça, et c'est vrai que j'avais des prédispositions, j'avais toujours, depuis tout petit, j'ai jamais été obligé d'en faire, c'était vraiment un choix personnel. C'est vrai que la musique peut-être était le moyen le plus évident pour moi de communiquer et de faire part de mes émotions et de ce que je ressentais, et donc ça s'est fait en fait tout naturellement, avec bien sûr l'aide et tout le soutien de mon père et de ma mère d'ailleurs.
Lost Return to Beirut, c'est le samedi 11 juin, 20h, au Independent Theater à Sydney. Rami Ralifé, je voulais vous demander quel était l'objectif de votre œuvre, mais en fait, durant toute l'interview, vous n'avez cessé de très bien l'expliquer et de le dire. Je vous cite, une ode à la tolérance, une fierté, un combat, une forme de thérapie également pour vous-même.
Pour moi-même et pour tous les gens qui se reconnaîtront dans le film. Je pense que chacun... nous, on a la chance extraordinaire, en fait, en tant qu'artiste, de pouvoir, justement, s'exprimer. Il y a beaucoup de gens, on se rend compte, qui ne peuvent pas s'exprimer, qui vivent avec une pression toujours sur les épaules, qui n'ont pas toujours le moyen de le faire, de s'exprimer, ou qui n'ont pas trouvé les clés de s'exprimer, toujours. C'est pas toujours facile, en fait, de s'exprimer ou de pouvoir... déceler les choses qu'on a en soi. Et c'est vrai que nous, les artistes, on a cette chance-là extraordinaire de pouvoir justement parler pour les autres aussi, parfois, de pouvoir s'engager pour les autres, et que ça devienne au-delà, en fait, de notre propre personne, que ça devienne un combat en commun. Mais je le dis d'une manière très pacifique, en fait, c'est pas un combat, on n'est pas là à prendre les armes, et... Non, c'est pas dans la violence, c'est vraiment juste parler d'une expérience et la partager, et en même temps toujours regarder vers l'avenir et se dire qu'il y a des belles choses malgré tout ce qu'on peut traverser. C'est vrai que on traverse des temps difficiles, voilà, on n'a pas besoin de rappeler ce que le monde a vécu ces dernières années, mais il faut toujours garder l'espoir et toujours se dire qu'il y a toujours une fenêtre où il y a une lumière quelque part, toujours. Donc c'est ça aussi le but, c'est de donner de l'espoir aux gens, et je pense que par ce concert, je pense que les gens en ressortiront avec beaucoup d'espoir.
Rami Ralifé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Détendez-vous en découvrant la musique du monde sur SBS Chill. Sur votre télévision et votre radio numérique, en ligne et sur votre smartphone.
sbs.com.au/chill.
Le chanteur M avec sa chanson Dans ta radio. Il est 13h55, vous écoutez SBS French, c'est l'heure du rappel des titres. L'opérateur du marché de l'énergie en Australie, doté de davantage de pouvoir pour stocker du gaz et de l'électricité afin de pallier les futures pénuries. L'État, qui espère raccourcir les délais de demande de passeport dans les prochaines semaines. À Berlin, une enseignante tuée lors d'une sortie scolaire fauchée par un véhicule lancé dans la foule. Et enfin, la Ligue des Nations, les Bleus, derniers de leur groupe après la défaite contre le Danemark et le nul concédé à la Croatie, c'était lundi. Les hommes de Didier Deschamps jouent leur prochain match demain, ce sera contre l'Autriche. C'est la fin de cette émission. Nous venons de passer une heure ensemble. Merci infiniment pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité. Je suis Marianne Murat. On se retrouve dès samedi pour votre prochain programme. Ce sera la même fréquence, la même heure à 13h. Si vous souhaitez réécouter ce journal ou bien cette émission dans son intégralité ou seulement nos chroniques, vous pouvez vous connecter sur notre site internet sbs.com.au/french, notre page Facebook SBS French, ainsi que Spotify, Apple Music, toutes les plateformes de podcast. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à samedi. Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.